Québec, Mauricie, Outaouais, Estrie, Saguenay-Lac-Saint-Jean.
Au réseau Cogeco. Jérôme Landry, Jonathan Trudeau. Trudeau. Landry.
Bon vendredi, bienvenue dans Trudeau Landry. Mon nom est Jonathan Trudeau, accompagné de Jérôme Landry. Salut Jérôme.
Ouais, gros week-end, très occupé en vue.
Nicolas Lacroix, salut Nico.
Bonjour, ça va?
Oui, Benjamin aussi qui est là. Et là, c'est ça, on était dans le jus. Les quatre avant d'entrer en onde, on a failli pas être à temps parce qu'on est tous en train de s'organiser des grosses fins de semaine. Là.
Des grosses activités, des sorties. Ben non, on fait des farces.
Beaucoup de plans.
Des plans de fondue, mais fondue en famille, bulle familiale.
Moi, je pense que je vais retourner à la chasse.
Tabarnouche.
Non, mais sérieusement, j'ai quoi d'autre à faire que de retourner? Normalement, tu sais, le grand du hockey, la plus petite, t'as de la gymnastique,
de la
du ballet, du patin. Là, s'il fait beau demain, m'en retourner sur le territoire à la chasse, là.
Oui. À soir, ça va être la fondue. D'ailleurs, bravo au gars dans Beauce qui a inventé un nouveau type de plat fondu.
Mais je suis pas convaincu.
Dans les journaux. Avec les paniers, avec moins de fourchettes entre
les mêlées. Mais la viande, t'as sac-tu dans le panier en mouton avec les autres légumes pis tout?
Ben, c'est ça que oui. Avec la viande, qu'elle soit piquée ou dans un panier, tu plonges ça dans le bouillon, on va cuire de la même façon, à mon avis. Là. À mon avis,
attends, il y a toute une technique de façon de d'arranger ta viande sur ton pic, là.
Ah non.
Au circuit égal.
Ceux qui enlignent 4-5 morceaux sur leur fourchette, moi, je compte ça, là.
Non, mais je veux dire, il y a une façon pareille. Si tu le sacs, mettons, dans le bouillon, il y a peut-être une portion de ta viande qui va s'être motonnée. L'autre, non, elle va cuire plus vite que l'autre partie motonnée.
Ouais, mais si t'en mets une à la fois, cette fourchette, tu veux dire, elle cuit pas mal égale. Moi, j'aime ça un peu saignant, là, de toute façon. Fait que...
Oui, c'est ça. Mais est-ce que. Mais ta compréhension, c'est que dans son invention, tu mets-tu la fourchette dedans ou tu mets ton morceau de viande dedans?
Tu mets le morceau, puis tu. C'est comme une espèce de. Comparer ça? C'est comme,
comme
une tarte, un peu, si tu veux, en pointe de tarte, mais c'est des paniers que tu mets. Directement
c'est ça.
Dans la
c'est
fondue.
Comme si vous n'avez pas vu l'invention, là, donc, parce que là, on en parle, puis il y a peut-être bien des gens qui l'ont pas vu, mais il y a un gars de la Beauce qui a réinventé la fondue. Plusieurs milliers d'unités de vendues, puis des visites internationales, puis à Weydon. Puis c'est comme si c'était un fromage, là, avec des, mettons,
en pointe.
Ouais. Mais vous avez tous vos petits paniers troués, comme des petites puises, puis vous faites cuire vos affaires là-dedans.
Mais les fondues asiatiques, quand tu vas dans des restaurants asiatiques, soit il y en a moins ici au Québec, mais c'est fait comme ça souvent les fondues asiatiques.
Moi, j'ai une crainte.
Des paniers là-dedans.
J'ai une crainte, c'est le maintien de la température du bouillon. Parce que les... Non, mais c'est vrai! Non, mais attends, on est des grosses affaires.
Des craintes et des anxiétés.
Je pensais pas m'en aller là.
Non, mais c'est dans les seules activités qu'il y a à faire en zone.
Ben, c'est ça. C'est que quand tu manges une fondue et que t'es trop de monde, qu'est-ce qui arrive? T'es pas capable de garder la température du bouillon. Fait que ta viande, elle reste mollassonne, elle cuit moins vite, tout ça. Mais là, avec plein de petits bacs en métal que tu vas ressortir, eux autres, à moins qu'ils gardent vraiment leur chaleur, quand
tu
replonges dans le bouillon...
Tu l'as pas, Jonathan.
Tu refroidis un peu, non?
Là, s'il y a beaucoup de monde, premièrement, il y aura pas beaucoup de monde autour de la table en fin de semaine. Mais quand on va pouvoir, si t'as beaucoup de monde, ça te prend deux plats fondus. Tu règles ton problème de cette façon-là. C'est soit que tu en as deux chez vous, que tu demandes à quelqu'un d'en amener un deuxième, fait que ça règle ton problème de température.
Deux.
Ça peut être pratique, deux. Si tu reçois des grosses gangs, mettons, 10-12 personnes, tu peux pas tout mettre ça dans le même plat fondu. Ça te prend deux plats fondus.
Mais là,
en fin de semaine, c'est la bulle familiale. Donc.
L'inventeur de ça va falloir qu'il amène son invention à son aboutissement logique.
Oui.
Et ça va prendre une zone de chaleur pour chaque pointe, comme dans la voiture.
Ouais.
C'est maintenant chacun son climat, mais là, ça va
prendre... C'est parce que
chacun
c'est
pas un tomahawk, de
le Christy, c'est une petite tranche de fondue.
Ça va coûter 1500 pièces d'acheter une fondue. Ça hypothèque ta maison pour t'acheter une fondue.
Pardon.
Ah, non, mais c'est le fun de voir le génie québécois à l'œuvre. Bref, une des discussions qui a lieu dans bien des chaumières, c'est l'Halloween. Qu'est-ce qu'on fait avec l'Halloween?
Mmh.
On va parler d'ailleurs un peu plus tard dans l'émission avec la docteure Nima Machouf, qui est épidémiologiste. Voir, y a-tu des risques ou pas? Mais moi, j'ai pas encore statué. Juste vous dire, là, j'ai pas encore statué.
Non.
Je sais pas, je lisais mon ancienne collègue Geneviève Peterson ce matin dans le journal, puis je trouve que c'est pas fou ce qu'elle dit, là. Est-ce qu'on a besoin de courir ce risque-là? Est-ce que c'est une bonne idée alors que les gyms sont fermés, les restaurants sont fermés, les écoles, ça se passe dans des bulles, il n'y a pas de sport, il n'y a pas de ci, il n'y a pas de ça, d'aller cogner à 125 portes?
Tous les experts que j'entends disent que, étant donné que ça se passe dehors, puis c'est un peu ce qui a été corroboré par le premier ministre hier que le danger n'est pas là. Là. Je veux dire, il n'y a pas vraiment de risque avec cette
activité. C'est
un contact
de moins de 15 minutes aussi.
Oui, c'est ça. C'est les attroupements, le problème. Je pense que hier, le premier ministre a dit, par exemple, pas question de passer l'Halloween avec vos amis. les enfants pourront pas passer bon, ça va être avec frères, sœurs ou bon, avec les parents, là. C'est l'attroupement qu'on veut éviter. C'est le tapon de 15, 20, 25 personnes.
Ah, mais dans une rue, ensemble. Alors, oui, puis, okay, regarde, je me fais l'avocat du diable.
Oui.
Au 25-226, là, si vous êtes full pro Halloween, envoyez-moi pas un char de bêtises. Je vous ai dit que j'ai pas statué encore. Et même si j'avais à prendre ma décision là, avec ma conjointe, moi, j'opterais pour les laisser passer l'Halloween parce que je trouverais ça dommage que déjà, il y a tellement de choses auxquelles ils n'ont pas accès en ce moment, qui voient par la fenêtre le monde qui passe l'Halloween qu'eux autres peuvent pas. T'sais, est-ce que ça va être plus... plus rapide qu'à l'habitude, je sais pas.
Mais ça, c'est pas la même collègue que d'habitude, tout le monde a compris
mais,
ça.
Mais si je me fais l'avocat du diable, quand tu passes l'Halloween dans un quartier qui est le moindrement achalandé, tout le monde se pile dessus, Jérôme.
Ben, il y a moyen d'appliquer une distance pareille. Je sais qu'il y a beaucoup de monde dans certaines rues, mais il y a moyen d'être intelligent, puis d'avoir du jugement, puis de respecter le 2 mètres ou le 1,5 mètre pour les enfants. Mettons, puis je pense que ça se fait très, très bien. Vois-tu, moi, mon gars, ce matin, ils sont pas fous, nos enfants, là. T'sais, on parlait de ça, puis il me dit, ouais, mais papa, passez ça tout seul. Pourquoi je peux pas inviter des amis de ma classe? C'est exactement ce que je te disais hier midi. Mon gars m'a sorti ça matin dans l'auto. Pourquoi avec mes amis de la bulle classe, je peux pas les inviter? On est ensemble toute la journée dans la classe. J'ai dit, ben parce que c'est ça qui a été décidé hier. J'ai pas d'autre réponse. Je suis pas sûr qu'il y a un argument scientifique qui pourrait défendre ça, de dire que c'est la bulle classe.
Parce que le problème, c'est qu'à un moment donné, il y a trop de petites clauses. Là.
Ouais.
Tu peux pas, sauf si tu fais ça. Là, tu pourrais faire ça dans telle circonstance.
C'est là que le jugement de parent doit s'appliquer.
C'est ça. J'en reviens à l'exemple que je donnais hier, d'aller regarder Couleurs en auto. Là.
Ouais, c'est ça.
Et que la police dise, éviter de changer de région, d'aller voir des couleurs dans les montagnes. Je comprends que ce qu'ils veulent pas, c'est que les gens se ramassent dans des commerces, dans des stations-service, dans des restaurants qui passent d'une région à l'autre. Si je pars de chez nous avec un café, que je passe de la Chaudière-Appalaches à la région de Portneuf, en dedans d'une heure et demie avec mon petit café puis ma famille, puis qu'on revient à la maison.
Zéro risque.
C'est une question de jugement aussi, ben voilà, je veux dire. En roulant en auto, je donnerai pas la COVID à personne.
Pis c'est encore un peu ça que j'ai compris du premier ministre hier, dans son point de presse hier après-midi, Jonathan. Quand il parlait du temps des fêtes, quand il parlait de l'Halloween, le temps des fêtes, on n'est pas rendu là encore, mais quand il parlait de l'Halloween, moi, ce que j'ai compris entre les lignes, c'est les parents, servez-vous de vos têtes. Servez-vous, soyez intelligents, là, dans votre façon de permettre à vos enfants de passer l'Halloween et de distribuer des bonbons.
Sauf que le problème, je comprends ce que tu dis, Jonathan, mais le problème avec ça, c'est que ça commence comme ça. Et après ça, sur ton trajet d'une heure et demie, ben là, quelqu'un va avoir envie. Fait que vous allez arrêter quelque part pour aller aux toilettes, puis etc., etc. Fait que multiplie ça par des milliers de personnes qui décident qu'eux autres, leur plan se tient et que c'est intelligent et que c'est logique et qu'ils ont le droit de le faire.
Non, mais c'est ça, mais c'est...
Et c'est là qu'on amène le virus dans des régions.
Je le sais, Nico, je le sais, mais tu sais, mettons, si je prends mon exemple à moi,
oui.
J'irai pas avec deux jeunes enfants de 6 ans puis 9 ans faire une promenade de 4 heures en char. Je sais qu'il y en a un moment donné qui va avoir envie de pipi,
ouais.
Mais je sais que mes enfants, si on part puis qu'on s'en va se promener en, mettons, une heure et demie, et que c'est un trajet aller-retour, je suis capable de leur dire, s'ils ont envie de pipi à mi-chemin, tu vas te retenir jusqu'à temps qu'on soit rendu à la maison.
Okay.
S'il y a une catastrophe, on arrêtera sur le bord de la route.
Ben,
mais je pense qu'il y a encore place à avoir un petit peu de jugement. En même temps, je comprends que le gouvernement, des fois, n'a pas le choix de faire une espèce de mur, simili mur à mur, parce qu'il y en a qui l'ont pas, le jugement. Mais on l'a dit, puis je pense pas qu'il y a que moi ou que toi, Nico, ou Jérôme, qui a un bon jugement. Je sais que les gens qui nous écoutent, la plupart ont un bon jugement. C'est juste, faut tracer la ligne.
Faut que t'aies une espèce de cadre, là. C'est plate à dire. Puis hier, j'écoutais ça, je me disais, ouais, le premier ministre, es-tu vraiment en train de nous dire comment fêter l'Halloween? T'sais, moi, je veux pas vivre dans un monde comme ça. Mais on comprend que la pandémie force ça. Mais quand tu y penses, là, de se faire dire par le gouvernement, vous aurez pas de party d'adultes, les enfants vont passer ça de telle manière, c'est complètement surréaliste ce qu'on vit là.
Oui, mais
moi, je me dis, moi, tu me réveilles, le cadran va-tu sonner?
C'est vrai que c'est surréaliste, mais en même temps,
est-ce que c'est mal? Qui dure depuis des mois et des mois.
Non, mais est-ce que c'est mal? Je veux dire, dans une situation particulière on n'est pas des experts de santé publique, où il y a des éléments qui évoluent à vitesse grand V, des données qui changent, qu'on se dise, ben les gens qui connaissent ça devraient nous donner des balises. Fixer des règles, nous donner des balises. Tu sais, fixer des règles, c'est, par exemple, les contrevenants, ceux qui écoutent pas, d'être capable de donner des amendes. Je m'attends à ce que le gouvernement fixe des règles, les applique. Mm-hmm. Mais dans d'autres secteurs, juste de fixer des balises comme, by the way, l'Halloween, oui, mais ce qu'on vous suggère, c'est telle affaire. C'est pas... C'est pas la fin du monde non plus. Là.
Non, mais tu comprends que c'est pas le fun. Je comprends pourquoi c'est fait, Jonathan. Je suis le premier à dire qu'il faut se plier à ça. Mais moi, j'aime pas ça dans la vie en général quand le gouvernement intervient dans ma vie. Là, c'est rendu qu'on nous dit comment fêter l'Halloween. Il y a quand même, on vit quand même une situation vraiment, vraiment particulière. Puis j'ai bien hâte que ça finisse. Puis la façon que ça finisse, c'est justement d'appliquer ce qu'on nous demande d'appliquer, je pense.
Bref, on va en parler tantôt avec Nima Machouf. On fera le point sur d'autres questions, évidemment, par rapport à l'épidémie. Peut-être juste vous dire ce qui s'en vient un peu aujourd'hui. Parce qu'à 13h, oui, il y aura point de presse. Il y aura point de presse. Pas de François Legault, mais du ministre de la Santé, Christian Dubé, accompagné du docteur Horacio Arruda. Et selon mes informations, faut pas s'attendre à ce qu'on nous annonce des choses particulières. Par contre, on va commenter des projections. Quelles projections? Des projections qui seront rendues publiques cet avant-midi par l'INSPQ, l'Institut national de la santé publique, un peu comme on avait vu au printemps, c'est-à-dire différentes courbes, scénario le plus pessimiste, scénario optimiste, scénario probable. On me dit que les courbes sont moins inquiétantes que ce qu'on a vu au printemps, selon les informations que j'ai obtenues. Donc, l'INSPQ va rendre ça public ce matin et en début d'après-midi, le gouvernement va commenter ça. Donc, on ira faire un tour, là, mais je pense qu'on n'aura pas de grandes surprises cet après-midi.
Ouais, on va aller faire un croche là-bas. Tu penses quoi, toi, des 15? En fait, j'hésite entre les traiter d'idiots puis avoir pitié d'eux autres.
C'est des vidanges.
Les imbéciles qui sont allés manifester chez le docteur Arruda hier soir, pour se prononcer contre les mesures, contre ce qui se passe actuellement au Québec. J'hésitais entre les traiter d'idiots puis de la pitié pour ces gens-là. Pis...
Bon, non, j'ai aucune pitié.
J'ai quasiment le goût d'avoir pitié d'eux autres. Ça fait pitié un peu dans un
sens. Ressaisis-toi immédiatement.
Ouais. C'est idiot mais comme ça. Comportement, mais à quelque part, ça fait pitié d'en être rendu. Comprends-tu ce que je veux dire? C'est d'une pauvreté intellectuelle épouvantable. Épouvantable d'en être rendu à faire ça puis de penser que c'est une bonne idée d'aller manifester devant la résidence du responsable de la santé publique.
Faut être mal intentionné. Et là, c'est là le problème, c'est qu'on parlait de l'importance de faire confiance au gros jugement, au bon jugement des gens, au gros bon sens. Mais ça démontre qu'il y a des gens qui l'auront jamais.
Non.
T'sais, tu peux être enragé après Dr. Arruda, enragé après François Legault. Tu peux être un anti-masque, même à la limite, c'est quoi? Tu peux être un conspirationniste, mais comment se fait-il qu'il n'y a pas une petite lumière qui allume, qui t'indique dans ta tête que de se rendre devant le domicile personnel, privé d'une personne qui a une job publique, ça se fait juste pas.
Ben, c'est pour
que c'est la ligne à ne pas franchir et que tu la franchis allègrement.
C'est pour ça que j'hésitais. Je les ai traités d'idiots ce matin sur Twitter, mais je me disais, tabarnouche, il y en a qui n'ont pas été dotés de beaucoup d'intelligence. Pour vrai, là, pas que je pense que moi j'ai une intelligence supérieure, je pense que j'ai une intelligence assez moyenne, mais ça, là, c'est que t'as pas été choyé par la vie, sérieusement. T'as pas été choyé par la nature quand tu descends aussi bas que ça, quand tu t'imagines vraiment que tu es en train de faire un geste intelligent et un geste important d'aller devant une résidence privée comme ça, là, sérieusement, j'ai quand même un peu de pitié pour ce monde-là. Ça fait pitié. C'est un peu triste à voir.
Mais j'entends, tu dis, vous pouvez être enragé après le docteur Arruda. Non, vous pouvez pas être enragé plus avec le docteur Arruda. C'est pas lui qui a créé la situation, là. C'est pas lui qui a
Créé le virus. Non, mais je veux dire, t'as le droit de pas l'aimer.
T'as le droit de pas l'aimer, mais enragé, c'est parce que enragé pour moi, c'est une autre étape.
Non, mais en même temps, quand t'as un job public, encore plus quand t'es politicien, là, tu dois accepter, moi je pense qu'un politicien qui n'accepte pas ça et pas à sa place, là, tu dois accepter que t'as un rôle de paratonnerre à jouer. Tu sais, à un moment donné, t'es comme le catalyseur. Les gens, là, ils doivent évacuer leur frustration. Puis quand ça va pas bien, ils vont, tu sais, si t'es pas capable de vivre... Non, mais...
Il y a un rôle public, mais c'est pas un politicien.
Ouais, mais lui a accepté, a participé à la montée, la construction du personnage du Dr. Arruda qui était... Moi, je pense, encore là, je parlais de ligne à ne pas franchir. Là, la ligne était très mince entre le rôle politique et juste le personnage de santé publique. Mais Dr. Arruda, il a franchi cette ligne-là un petit peu. Là.
S'il n'y a jamais de COVID, 99% du Québec connaît jamais le docteur Arruda.
Non, non, il continue ses campagnes.
Il n'y a pas un rôle public tant que ça. Là,
ben, il est quand même directeur national de santé publique.
Oui. Mais il a été projeté aux yeux du grand public à cause de ça, parce qu'effectivement, on n'aurait pas beaucoup entendu parler de lui.
Exact. Mais bref, moi, je pense, quelqu'un qui est fâché contre lui, je veux dire, t'as le droit, là. C'est légitime. Des fois, les gens cherchent quelqu'un à pointer du doigt pour la situation, même leur situation personnelle. Je peux pas dire quelqu'un qui est fâché contre lui, je peux pas le juger. Mais c'est comment ça s'exprime. Si ça s'exprime de se rendre devant chez eux, je peux pas croire que ces gens-là sont pas capables de réaliser que derrière, par exemple, un homme comme le docteur Arruda, il y a une conjointe, il y a des enfants qui demeurent à cette adresse-là et qui, elle, mettons, cette conjointe-là, ces enfants-là, voient les menaces de mort dont fait l'objet leur père, les attaques qui sont absolument violentes, verbales, et qui, là, en plus, voient des gens qui sont devant chez eux, donc que leur adresse a circulé. Puis que là, tu te dis, là, dans le jour, il y a une auto qui passe tranquillement devant la rue. Là, comment veux-tu ne pas devenir un peu parano?
Beaucoup de réactions au 25226. Merci de nous écrire. Bon, personnellement, le mot qui me vient à l'esprit, c'est minable. Ce serait plaisant d'avoir l'avis des autres auditeurs. Pas beaucoup de positifs, là. Pas beaucoup de compliments pour ceux, les 15 imbéciles qui sont allés devant la résidence du docteur Arruda hier soir. Mais ce qui est inquiétant quand tu vois ça, c'est... Puis là, hier, faut le dire, il n'y a pas eu d'incident, là. Ils ont fait ça de façon relativement calme, à ma compréhension. Mais je me demande tout le temps, c'est quoi la prochaine étape? Est-ce que c'est ces gens-là qui, par exemple, peuvent se dire à un moment donné, on va procéder à des arrestations citoyennes? On a vu quelques cas là, à Ottawa, entre mm-hmm. autres, avec un journaliste de Radio-Canada. Ouais. Bon, je pense que Jack Meeting a été visé aussi à Ottawa par une espèce d'arrestation citoyenne. Okay. Il y a un élu, me semble, à Ottawa aussi. C'est tout ça la prochaine étape. C'est quelqu'un qui est capable d'aller un jeudi soir devant une résidence privée, qui a fouillé l'adresse, qui a trouvé ça, qui a enquêté. Il est probablement capable aussi de se lancer dans des gestes du style arrestation citoyenne.
Mais c'est ça le problème, c'est que tu dis c'est quoi la prochaine étape. Quand il y en a qui sont prêts à aller là, puis je...
Ouais.
Pour autant Dr. Arruda que pour sa famille, évidemment, il y a quelque chose d'absolument inquiétant là-dedans. On va faire une première pause bientôt. Juste vous dire que dans les toutes prochaines secondes, il y a la vice-première ministre responsable de la sécurité publique, Geneviève Guilbeault, qui va faire le point concernant le directeur de la Sûreté du Québec, Martin Prudhomme. Si vous n'avez pas encore vu ça ce matin, ça circule beaucoup. C'est la presse qui a sorti la nouvelle. C'est-à-dire que Martin Prudhomme, qui avait été suspendu de ses fonctions il y a à peu près 2 ans de ça, en raison d'allégations criminelles, ben, il avait fait, suite à une année d'enquête, on avait appris qu'il était blanchi. Donc, pas d'accusation. Par contre, le BEI, le Bureau des enquêtes indépendantes, faisait quand même son enquête à elle pour des questions de faute déontologique. Et là, ce que Martin Prudhomme a dit aux journalistes de la presse et en entrevue avec notre collègue Paul Arcand ce matin au 98.5, c'est que lui, ce qu'on lui a indiqué, c'est que le comité d'experts jugeait qu'il y avait eu faute assez grave pour le destituer.
Puis là, faute grave, quand on parle de la police, mettons, on se met à essayer de deviner, là, ça peut être quoi, mettons, pot de vin, ça peut être une faute grave. Accuser, faire une enquête pour rien sur quelqu'un, accuser quelqu'un faussement, faire des fausses déclarations, mentir.
Tenter d'influencer de façon indue le cours d'une enquête.
C'est une histoire de conversation téléphonique, là.
Oui, qui est derrière avec la DPCP.
Puis lui, 16 mois, puis c'est arrivé 16 mois après la conversation qui a été retirée de ses fonctions. Là.
Et,
c'est spécial,
et ça a pris
là.
Presque une année avant qu'il sache qu'est-ce qui était à l'origine de la plainte.
Ouais.
C'est quand même assez incroyable. Bref, là, Geneviève Guilbeault va effectivement parler du rapport qui a été rendu public. Et les informations que moi j'ai obtenues sont assez intéressantes. C'est-à-dire que, contrairement peut-être à ce qui était véhiculé au cours des dernières heures, on n'annoncera pas nécessairement le début du processus de destitution qui doit se faire par l'Assemblée nationale. C'est les 2/3 de l'Assemblée nationale qui devraient, par exemple, voter pour le destituer. Mais le gouvernement va un peu prendre le singe et le mettre sur les épaules d'un organisme qui s'appelle la Commission de la fonction publique. Et là, eux auront à choisir entre, par exemple, suggérer le processus de destitution ou y aller d'une suspension, par exemple, sans solde de quelques mois, mettons.
Mais est-ce que la ministre est en mesure, peut-être, de mettre le point sur la table et de dire ce que tout le monde pense au Québec actuellement?
Qu'il y a un problème avec la police?
Il y a un problème avec la police qui est généralisée. Ça va au-delà de Martin Prudhomme. Regardez ce qui s'est passé dans les derniers mois. Guy Ouellet, arrêté, mais pas accusé. Puis ça traîne pendant des mois au-dessus de sa tête. Jean Charest, qui poursuit le gouvernement, ça a été annoncé vendredi passé. Une enquête qui dure depuis 6 ans, pas d'accusation. Nathalie Normandeau, ajoutons ça à ce qui s'est passé aussi. L'UPAC qui l'arrête la journée du budget provincial. 6 ans plus tard, les accusations tombent. Est-ce que la ministre Guilbeault peut mettre le point sur la table tantôt? Penses-tu que c'est possible, Jonathan, de dire ce que tout le monde au Québec voit et comprend depuis longtemps? C'est qu'il y a des corps policiers actuellement qui se concentrent pas sur les bonnes priorités. C'est-à-dire que la priorité des policiers, à ma compréhension, c'est supposé d'être arrêté criminel. Mais on a l'impression que la priorité de plusieurs corps policiers actuellement, incluant l'UPAC, c'est de régler des dossiers personnels ou de se lancer dans des missions politiques. Est-ce que la ministre va mettre le point sur la table tantôt?
Non.
Non?
Non, je pense
faudrait,
pas que
c'est... Faudrait qu'elle mette le point sur la table.
L'exercice que Geneviève Guilbeault va faire, ça va être un exercice d'essayer d'éloigner le gouvernement du merdier actuel.
OK.
Parce que aux sources à qui je parlais tantôt, on me disait, dans le fond, là, le gouvernement de la CAQ hérite d'un problème qui n'était pas le sien à la base. C'est-à-dire, il y a eu la chicane à police avant qu'eux arrivent en poste. C'est là, bon, il y a eu des processus administratifs et là, eux se ramassent à gérer ça. C'est pour ça qu'ils vont essayer de mettre, de pelleter ça dans la cour, la commission de la fonction publique, qui, elle, devra faire une recommandation. Bref, la conclusion que je voulais apporter avant d'aller à la pause, tu l'as fait un peu en quelque sorte. C'est-à-dire qu'on se ramasse dans un contexte où tu as une ancienne vice-première ministre du Québec qui poursuit la police puis le gouvernement à cause du traitement.
Qui va poursuivre, en tout cas.
T'as l'ancien. Ben, qui, oui, excuse, c'est, ben, elle a pas confirmé la télé Normando, mais en tout cas, on pense qu'elle aurait une bonne cause.
Oui, je pense que oui.
Jean Charest qui a annoncé qu'il va poursuivre. Guy Ouellet qui pourrait potentiellement poursuivre. Et là, le directeur de la Sûreté du Québec, parce qu'il est encore directeur de la Sûreté du Québec, ce matin, il disait à Paul Arcand, m'a probablement poursuivre, moi aussi.
Puis c'est un gars qui a une carrière. Qui avait une carrière de policier, assez étoffée, là. Tu sais, l'enquête sur Cédrica Provencher, vous allez me dire, bon, ça a pas débouché sur une accusation, mais je me souviens quand il était enquêteur dans cette histoire-là, je pense que ça y tenait à cœur, puis je pense qu'il a fait relativement un bon travail. C'est un policier étoile, Martin Prudhomme. Là,
et, ben, en fait, moi, je dois te dire que c'est dans les fonctionnaires qui m'ont le plus marqué pendant mes années au gouvernement, parce qu'il était sous-ministre à la Sécurité publique quand moi j'étais au cabinet du premier ministre. Oui. Quand j'étais au cabinet du premier ministre, c'est toute la gestion du séisme en Haïti, le rapatriement des ressortissants haïtiens, les fonctionnaires québécois qui étaient décédés là-bas. Moi, j'étais sur un comité là, sur lequel on se réunissait plusieurs fois par jour. Martin Prudhomme était celui qui était à la tête de ça du côté de la sécurité publique. Et c'est un des fonctionnaires pour qui j'ai le plus de respect, avec qui j'ai travaillé. Je trouve que c'est un gars avec une intégrité incroyable. Il est compétent. Je trouve ça épouvantable, moi, ce qu'il y a.
Mais il va falloir que quelqu'un s'intéresse à ce qui est en train de gangréner la police en général au Québec, là. À ce qui est en train de se passer avec la police au sens large, présentement.
Ouais. Donc, Geneviève Guilbeault qui va prendre la parole dans quelques minutes. On va suivre ça. On vous rapportera l'essentiel de ses propos. Il est 10h21. Vous écoutez Trudeau-Landry.